Et ben voilà, ça c'est la traduction française, tu vois, il est même dédicacé par Muret Schaeffer.
Raymond Muret, donc Schaeffer en français ou Schaeffer, ouais. Toute l'histoire de notre environnement sonore à travers les âges. Voilà, et là, ouais, t'as la version en anglais.
On voit bien que le titre anglais original, c'était Our Sonic Environment and the Tuning of the World. The Tuning of the World, qui voudrait dire l'accordage du monde, mais qui en fait, c'est le titre de cette gravure qui représente le monde comme un instrument. Et donc, il a forgé ce néologisme de soundscape, qui est donc un mélange de landscape, paysage, et de sound. Donc, soundscape, ça a été traduit par paysage sonore. Et en fait, soundscape, ça sonnait tellement bien, c'était tellement facile à comprendre, que dès la deuxième édition, l'éditeur, alors que c'était un sous-titre, l'éditeur l'a mis en gros, comme on le voit ici, sur cette couverture, et c'est devenu un concept.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
L'écologie sonore, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Mais non, en fait, c'est pas nouveau. Daniel Mermet en parlait à sa façon quand je réalisais l'émission « Là-bas si j'y suis ». Michel Reiss aussi, un autre camarade, metteur en scène et en son, s'en inspire pour sa compagnie Décor Sonore et a connu son concepteur, le compositeur et théoricien canadien Raymond Muret Schaeffer, qui nous a malheureusement quittés cet été. Le son du monde, comme une vaste composition sonore, dont nous sommes en partie les auteurs, a perdu un de ses chefs d'orchestre.
C'est bien, bien, tôt, demain.
Michel Reiss, Décor Sonore.
Sur France Inter.
Code, ah ben voilà. Allez-y, allez-y, ah ben je passe et je vous tiens la porte.
Merci.
Je vous en prie.
Donc, je suis Michel Reiss, musicien, compositeur et surtout jardinier acoustique. Donc, j'essaye de prendre soin du paysage sonore avec la compagnie Décor Sonore.
Michel Reiss. C'est là. Ah, c'est là. Vous y allez aussi?
Non, mais c'est un ami.
Reporter.
Ouais.
Reporter sonore.
Exactement. Salut, ça bosse chez toi là, hein?
Ben oui, comme j'ai su que tu venais, j'ai dit, vous pouvez pas me rafraîchir un petit peu.
Peu de son là, qu'on ait un peu de son dans la cage d'escalier.
Ben, voilà, exactement, oui, qu'il y ait un peu d'animation.
Je vais sortir le micro. 1, 2, 3, 4, ça tourne.
C'est un sound device maintenant.
Ouais, j'ai un sound device.
Avec un zoom à la volée, à la
non.
Main, comme ça.
Ouais, mais je continue beaucoup à travailler avec les zooms quand je suis sur les luttes et tout ça, quoi. Mais là, pour travailler quand même sur le son, donc certains appellent l'écologie sonore aussi.
Ouais.
Donc j'ai quand même pris un Shops, effectivement, pour venir t'enregistrer. Et puis après, j'ai un couple stéréo aussi pour prendre quelques ambiances. Mais là, comme l'aurait fait donc Yann Parentoen, je vais t'enregistrer au Shops mono. Hein.
C'est ça qu'il faisait Parentoen, il enregistrait au Shops mono.
Toutes les voix.
Ah, les voix, ouais. Ok. Oh là, je suis très ému. Que ma voix soit captée par un Shops en mono, comme Yann Parentoen, qui est quand même une légende. On ne peut même pas parler de la création radiophonique. Voilà. C'est même pas du reportage audio, c'est la création radiophonique. Ben oui, l'écologie sonore, bien sûr. Les notions de paysage sonore et d'écologie sonore, bien sûr que ça me parle. En tant que musicien, parce que j'ai eu cette intuition, mais gamin déjà, que tout ce que j'écoutais pouvait être non pas simplement une espèce de chaos, de bruit, les bruits de la vie, tout ça, mais que ça pouvait, pour moi, ça avait une physionomie, un intérêt, et puis un intérêt esthétique, quoi. Il y avait des sons que j'aimais, il y avait des sons que j'aimais moins, et des sons que j'aimais, j'essayais de les refaire ou de les réentendre. Et en fait, je me suis rendu compte, mais des dizaines d'années plus tard, que ben, ça faisait partie d'une sorte d'écologie. Mais pour ça, il fallait qu'il y ait déjà la notion d'écologie qui apparaisse.
Justement, Michel Reiss, toi, tu as connu Muret Schaeffer, ouais, qui a théorisé la question d'écologie sonore, ou en tout cas, il a nommé l'écologie sonore.
Je pense que ça fait partie, oui, de sa démarche. C'est la notion de paysage sonore qu'il a, on pourrait dire, inventé. En fin de compte, son bouquin qu'on appelle aujourd'hui « Le paysage sonore » en français, qui s'appelle « The Soundscape » en anglais, ne s'est pas tout de suite appelé. La première édition s'appelait « The Tuning of the World ». c'est-à-dire l'accordage du monde. Comment est-ce qu'on peut... Vous voyez, elle a cette notion d'harmonie, que les choses... Bon, l'écologie, qu'est-ce que c'est, hein? C'est l'étude de la relation entre les êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Alors, si on transpose cette notion d'écologie à tout ce qu'on entend, à tous les sons qu'il y a autour de nous, on voit bien qu'il y a une notion d'équilibre et peut-être bien d'harmonie. Donc, cette idée que « the tuning of the world », c'était « the tuning of the world, listening to our environment ». On avait la notion d'environnement. Là, on est dans les années 70, hein. C'est un compositeur et prof de musique, ça c'est hyper important.
Et aujourd'hui, Michel Ries, ce serait quoi l'écologie sonore pour toi ?
L'écologie sonore, ça serait peut-être bien de se taire, donc je devrais me taire, là on devrait écouter le bourdonnement du poste ou quelque chose comme ça. Ou le
boulevard de la Chapelle.
Le boulevard de la Chapelle de Rochechouart, ou le bruit du frigo, etc. Parce que là, ça devient... Moi, chaque fois que je me tais, ça devient plus intéressant. C'est vrai. C'est un exercice que je fais avec le public. Souvent, je leur fais faire un son, bien ensemble, et puis on écoute ce qui se passe. Et ça ne rate jamais, il y a toujours un autre son qui nous répond. Donc c'est vrai que c'est un peu ça aussi, l'écologie sonore, c'est se taire pour écouter ce qu'il y a autour de nous.
Et bien on va passer en stéréo, quoi.
Ah oui.
On entend bien le frigo en stéréo, hein, c'est bien.
Oui, oui.
Tu peux me parler de lui un peu, donc, de Muret Schaeffer, hein, et pas confondre avec Pierre.
Avec Pierre. Alors, faut pas les confondre, Pierre Schaeffer et Muret Schaeffer, qui se prononcent un peu de la même façon, bien que Muret Schaeffer n'ignorait pas Pierre Schaeffer, bien au contraire, connaissait même bien ce que c'était que la musique concrète, tout ça, ça l'avait, en tant que musicien, ça l'avait beaucoup passionné, et Muret Schaeffer a fait des tonnes d'enregistrements de ce qu'on appelle aujourd'hui du field recording, hein, d'enregistrements sur le terrain. Et notamment, ce qui l'intéressait beaucoup, c'est d'observer l'évolution des paysages sonores. Parce que voilà, le son, c'est quelque chose d'éminemment fugace, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas le fixer. Donc le fait de pouvoir le fixer, ça permet de l'observer. Et il a fait des prises de son absolument édifiantes du changement de paysage sonore qu'il y avait par exemple en Bretagne. D'ailleurs, je me demande si Antoine n'a pas...
L'Esconil.
L'Esconil, voilà. Si ma mémoire est bonne, ça a été initié par Muret Schaeffer, ce travail.
When we went to L'Esconil.
Muret Schaeffer.
Questionnaire pour L'Esconil. De Yann Parentoen.
Entre février et juin 1975, le World Soundscape Project a entrepris d'étudier le paysage sonore dans 5 villages de 5 pays de l'Europe du Nord. L'Esconil, dans l'ouest de la France.
Quimper. Voyons,
en venant de la cathédrale. Toi, tu peux expliquer.
Oui,
tu connais Quimper.
Quelle direction, à peu près?
Ah ben, l'Esconil, si.
Oui, mais... On se dirige plutôt... vers le sud, quoi.
Ah, c'est ça.
Sud-sud-sud-est, peut-être. Ouais. On traverse... quel village?
Souvenir jusqu'ici.
Pour la baie, Plovalec.
Et l'Esconil.
L'Esconil,
c'est breton. L'Esconil, c'est breton. L'Esconil, c'est français. Finistère sud.
When we went to L'Esconil.
À L'Esconil.
We wanted to try and discover.
Nous voulions essayer de découvrir
L'Esconil,
ce qui rendait le village différent d'un autre village.
Et donc je me suis un peu guidé comme ça, donc je feuilletais de temps en temps ce fameux bouquin, Le paysage sonore. Je trouvais que c'était un bouquin extrêmement factuel, hein, où il y a des enquêtes, il y a des mesures, il y a des choses comme ça, mais tout en proposant quand même une poétique de l'écoute. Bon. Et si bien que pour moi, c'était pas que pour moi, c'est devenu un personnage un peu légendaire. C'était un petit peu, en effet, le pape de l'écologie sonore, de ce qu'on appelait l'écologie sonore. Et comme parallèlement, il y a eu, il y a eu une émergence de l'écologie tout court, quoi. Depuis René Dumont qui s'est présenté aux élections, je ne sais pas, tu te souviens de quelle année ?
70 et quelques.
Voilà, c'est dans les années 70. On a vu cet hurluberlu qui s'est quand même, c'était quand même gonflé. René Dumont de se présenter aux élections présidentielles françaises. Avec son écharpe et son pull rouge, là, je me souviens très bien. Ça m'avait beaucoup marqué. Et ce qui est drôle, je m'étais dit, mais c'est très sensé ce qu'il raconte, en fait. C'est un peu inquiétant quand même, parce qu'il est en train de nous dire, et là, il y a donc 50 ans, il est en train de nous dire que faut s'inquiéter, il faut changer de comportement, en gros, et il faut regarder, justement. Et il disait pas écouter autour de nous, mais c'était du même ordre. Et donc, je pense que il y a eu deux choses parallèles, puisqu'on est là pour parler d'écologie sonore, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu autant d'attention portée à l'écologie sonore, à l'environnement sonore, s'il n'y avait pas eu une écologie tout court. D'ailleurs, une des grandes sources d'inspiration de Murray Schafer, c'est ce fameux bouquin de...
Ça y est, le nom... Printemps silencieux, c'est ça ?
Voilà, ouais, le printemps silencieux. Comment il s'appelle ? Carson ?
Ouais.
Carson, mais je n'en rappelle plus du prénom. Je dois l'avoir à côté.
Rachel Carson.
Ouais. Comment tu dis ?
Rachel.
Rachel Carson, évidemment.
France Inter. C'est bientôt demain. Antoine Chao.
In a way, the world is a huge composition, a huge musical composition that's going on all the time, without a beginning and presumably without an ending. We are the composers of this huge, miraculous composition that's going on around us. And we can improve it, or we can destroy it. We can add more noises, or we can add more beautiful sounds. It's all up to us.
Salut, c'est la Bastille qui suit.
Je suis laissé dire, c'est la ligne de New York, Paris qui passe au-dessus ici.
Flight number 2, arriving from...
Et du coup, Daniel, moi je suis content de te voir là, parce que c'est quand même à la basse si j'y suis que j'ai entendu, que je t'ai entendu parler d'écologie sonore.
Nous on a toujours fait gaffe au paysage sonore. C'est l'influence, d'abord mon influence à moi, le plasticien, les beaux-arts et tout ça. C'est aussi l'influence à la radio de Yann Parentoen, avec qui j'ai bossé très souvent. Et puis c'est aussi l'influence de Codou et Garetto, tu vois, les deux gars qui animaient l'émission L'Orient Coin, qui étaient très attentifs au son en général. Et ça, c'est un truc qui reste quand même à Radio France. Hein. On a fait attention dans l'histoire de la radio, qui a failli devenir un art à part entière, ce qui n'a pas été le cas. C'est resté un truc de boniche, hein, au service des autres formes d'art, qui s'est pas complètement développé, mais il y a quelque chose qui est resté sur le langage sonore, avec les ateliers de création radiophonique, avec tout ça qui est resté quand même tout le long. Et donc, moi, j'ai fait gaffe à ça, je suis pas le seul, hein, mais avec la basse et j'y suis, on cherchait plus de sens dans le son que dans les mots. Et le son, c'est-à-dire l'ensemble du paysage sonore dans lequel on va se trouver. Le paysage sonore va conditionner la façon dont les personnes s'expriment. Je vais être influencé complètement par le paysage sonore. Là, je suis influencé dans une grande salle, alors je parle d'une certaine façon. Mais si des sons arrivent, je vais parler d'une façon différente. Mais je risque peut-être même de penser d'une façon différente. Hein. On fait pas gaffe au paysage sonore. Mais nous, on y a fait très attention dans la basse. J'y suis encore une fois sans être les premiers, mais quand même un peu pionnier avec l'idée d'adapter ça, de tenir compte de ça dans une émission quotidienne. Ça a été notre grosse affaire. Tu sais très bien parce que tu y as participé. Et puis c'est ce que vous continuez de faire, quelques-uns. C'est-à-dire de trouver un langage qui nous permet, dans une émission, d'utiliser tous les éléments sonores, et à commencer par ce qu'on appelle les ambiances, etc., sans très bien savoir pourquoi, quand on fait un reportage qui se passe boulevard Magenta, comment le bruit de la circulation, il faut pas que ce soit le Sébasto. Hein. C'est Magenta et c'est pas Sébasto. On sait pas très bien pourquoi, mais c'est pas la même chose. Et sans qu'on maîtrise tout à fait. Il y a beaucoup de nos émissions, du travail qu'on a fait et que vous continuez de faire et que nous aussi on continue de faire ici, qui doit beaucoup à ça, qui doit beaucoup à ce respect du paysage et à l'utilisation du paysage sonore et des sons plus que des mots. Voilà.
À la base, j'y suis, l'écologie sonore, c'était pas de bruitage, pas de faux sons, pas d'ambiance extérieure, etc. C'était ça l'idée, quoi.
C'est ouais. Ça. C'est prendre tous les éléments qu'on a au cours de la prise de son, de tous les utiliser, de tous les assembler en un certain ordre, mais encore une fois, considérant que le bruit des néons, là, en ce moment, par exemple, est aussi important que ce que je suis en train de raconter.
Parce que si le son raconte quelque chose, si on met du papier peint et si on triche sur les ambiances, etc., c'est-à-dire qu'on triche sur le fond, sur la forme et sur le fond, quoi.
C'est ça. Et ça trompe pas. Il y a une vérité du paysage. Et la radio, elle est là, elle est pas ailleurs. Il y a un ressenti qui provient du travail et du respect de ce paysage sonore.
Je suppose qu'avec le temps... il y aura de plus en plus d'invasions sonores de la vie des communautés. Nous avons observé ça dans tous les villages. Si vous faites passer une autoroute à travers le village, brusquement, tout l'environnement acoustique change.
C'est bientôt demain, vous trouverez toutes les références à l'écologie sonore de Murray Schafer sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne ou en podcast.